Vous écoutez La Voix du Collectif. Bienvenue! La Voix du Collectif, c'est un reportage sur les modèles agricoles en collectif, porté par l'association Parole de Paysans. Nous sommes Julia et Judith, deux étudiantes en agronomie, et pendant 4 mois, on sera en immersion au sein de collectifs agricoles. Voici le premier épisode de notre série de podcast, un épisode particulier pour contextualiser et amorcer notre sujet.
Dans cet épisode, dont le format est bien différent des prochains, on se demande pourquoi choisir la voie du collectif agricole. Avant de partir sur le terrain, à la rencontre des collectifs agricoles, on a discuté de cela avec 2 personnes. L'une nous a donné son regard d'agriculteur, l'autre son regard de chercheur.
Alors François Chabret, François Chabret, paysan. Paysan et développeur, je crois que c'est... je suis un paysan développeur, en fait. Pendant tout mon parcours, en fait, c'est vrai que j'ai eu à la fois le souci de faire vivre mon exploitation, mais aussi à la fois aussi de faire vivre le territoire, quoi. Et de mettre en place des outils qui permettent au territoire de s'en sortir, quoi. Voilà. À mon niveau, hein, je veux dire, je suis pas le messie, mais agir au quotidien, quoi, en fait. Hein, voilà. Agir là où on vit, quoi.
Alors, je m'appelle Rémi Gauthier. En stage de fin d'études, je suis allé à l'IRSTEA de Clermont-Ferrand. On y étudie beaucoup les questions de territoire, de ruralité. Et j'étais dans une unité mixte de recherche sur les liens entre propriété et usage du foncier agricole. Le but, c'était d'étudier un peu les formes de propriété un peu innovantes sur le foncier agricole et les formes de propriété collective notamment.
Si on a choisi de parler du collectif en agriculture, c'est qu'on pense qu'il répond à de nombreux défis auxquels fait face l'agriculture actuelle.
Mais avant de voir ce qu'apportent les collectifs, est-ce qu'on ne pourrait pas retracer l'historique récent de l'agriculture en France et ses enjeux actuels ?
On fait le constat que l'état de l'agriculture est aujourd'hui inquiétant, avec de lourds impacts écologiques, sociaux et économiques. Si on en est arrivé là, c'est que le modèle agricole dominant en France est le fruit d'un processus d'industrialisation poussé par l'État depuis l'après-guerre. Dans un objectif de souveraineté alimentaire en Europe, l'agriculture se modernise à partir des années 50, incluant mécanisation et chimisation.
La France est un grand pays agricole. 32 millions d'hectares de culture, 32 millions d'hectares à défendre contre les mauvaises herbes.
Laissez faire Roundup. Roundup détruit totalement les mauvaises herbes, même les plus coriaces.
Ce progrès technique, qui repose essentiellement sur une utilisation massive des énergies fossiles, augmente la productivité physique du travail. Un agriculteur ou une agricultrice peut alors exploiter des surfaces bien plus grandes et on assiste alors à une diminution de l'emploi agricole. La politique agricole commune, mise en place en 1962, pousse aussi à l'agrandissement des fermes et l'augmentation de la productivité. Ça passe d'abord par la garantie de prix minimaux de rachat par l'État, une sorte de filet de protection incitant les agriculteurs et les agricultrices à produire plus. Ça passe ensuite, à partir des années 90, par des aides versées à l'hectare aux producteurs et aux productrices, ainsi que la dérégulation du marché. Cette dérégulation, c'est par exemple la levée des droits de douane, augmentant la compétitivité sur le marché international. Tout cela conduit à une course à la productivité, un abandon des petites fermes au profit de grandes fermes compétitives, des logiques d'endettement presque inévitables, une chute du nombre d'actifs agricoles, un isolement des agriculteurs et des agricultrices, un écart croissant entre le milieu agricole et le reste de la société, déconnecté de ses enjeux. À ces problèmes socio-économiques, rendant le métier d'agriculteur et d'agricultrice extrêmement dur, s'ajoutent des impacts écologiques non négligeables. Chute de la biodiversité, pollution des sols et des eaux, érosion du sol, diminution de la fertilité, etc. C'est aujourd'hui un modèle désuet que nous devons revoir. Nous avons l'intuition que les collectifs agricoles sont porteurs de solutions, en expérimentant de nouvelles façons de produire, en mettant en commun des ressources humaines et matérielles.
La première question qu'on a posée à Rémi et François, c'était quelles ressources étaient mises en commun autour de l'agriculture. Qu'est-ce que ça voulait dire concrètement faire partie d'un collectif agricole ? Les deux nous ont répondu à partir de leur expérience. Celle de François, en tant qu'agriculteur qui désire tisser du lien avec son territoire, et celle de Rémi, dans les collectifs agricoles qu'il a rencontrés au cours de son mémoire.
Ouais, l'histoire du collectif, en fait, moi, elle remonte assez jeune, à 12 ans. Donc, j'étais en cinquième, je crois. C'est ça, 12 ans, on est en cinquième. j'ai participé à un mouvement qu'on appelle le MRJC, en fait, hein, le mouvement rural de la jeunesse chrétienne. Voilà, je me suis retrouvé dans un camp de jeunes, hein, c'est un petit peu, les scouts aussi font ça. Enfin, voilà. Donc, nous, c'était plus un mouvement qui était en place en rural, quoi. Et c'était l'apprentissage d'une vie, organiser un camp, être ensemble, faire à manger ensemble, comment on se gère, comment on gère le quotidien, comment aussi on prend en compte les conflits entre nous, comment on vit ensemble, quoi, en fait. Hein. Donc c'était une découverte du vivre ensemble. Et donc après mes études, j'étais animateur donc de la Confédération paysanne sur le département de la Loire pendant 10 ans. Et puis après, je me suis retrouvé avec un projet d'installation en viticulture. Et là, c'est vrai que démarrant de rien en fait, j'ai proposé aux collègues sur le coin de monter une CUMA. Donc, coopérative d'utilisation de matériel agricole. Donc, voilà, rapidement, comme je n'avais pas de matériel, moi, j'ai proposé aux collègues qu'on achète du matériel en commun. Donc, ça n'a pas été très, très simple parce qu'il y avait quand même des gens qui travaillaient seuls. Mais bon, on s'est retrouvé une équipe. Et donc, on a créé la première CUMA viticole sur la côte touranaise, quoi.
Les collectifs que j'ai étudiés, donc c'est des gens qui s'installaient en agriculture, donc déjà c'est un groupe particulier de personnes, quoi, ceux qui arrivent dans le milieu et qui connaissent pas forcément le monde agricole, et en plus ils s'installaient avec des modalités qui étaient assez peu communes. C'est pas une installation classique de s'installer en collectif, et donc au niveau des idées, ça dépend de chaque collectif. Ils ont globalement les mêmes idées au sein du collectif, hein, vous vous en doutez un peu, des valeurs très autogestionnaire, écologiste, féministe, et très, très tourné vers la solidarité et le respect de l'autre et l'ouverture à l'autre.
Tout au long de mon parcours, en fait, j'ai été baigné dans cette approche du collectif, en fait, où l'individu est important, mais on avance qu'ensemble, quoi. Il y avait un prêtre qui me disait souvent « Il vaut mieux faire un pas à 10 » que dit pas tout seul. Et ça, ça a toujours été quelque chose qui m'a motivé dans les choix que j'ai faits, quoi. Et ça crée aussi une dynamique où chacun fait son vin, donc chacun son produit, mais on partage aussi sur des façons de faire, sur des façons de produire aussi. Moi, je suis passé en bio en 2010. Assez longtemps, en fait, dès mon installation, j'avais cette envie de faire du raisonné, de faire attention à ce que je faisais au niveau des produits. Et le fait de travailler ensemble, en fait, ça a aussi permis de réfléchir à ça, de réfléchir au passage en bio, et on l'a fait à plusieurs, quoi. Et ça, c'était assez bénéfique parce que, voilà, on comparait on comparait un petit peu ce qu'on faisait. Bah, tiens, toi, tu traites avec ça. Bah, tiens, oui, mais moi, je mets ça. Enfin, voilà. Donc, il y a tout aussi une auto-formation entre nous, sur des pratiques nouvelles de production et d'intervention sur la vigne, quoi.
Ces diverses formes d'associations constituent des leviers puissants aux difficultés et contraintes inhérentes à la profession agricole. L'acquisition de matériel agricole, le changement de pratiques agricoles ou le temps passé à la distribution des produits qu'a vécu François à ses débuts, mais aussi l'accès à la terre, comme nous l'explique Rémi.
Pourquoi est-ce qu'ils mettent tout ça en commun ? Eh bien, d'une part, pour éprouver justement ces valeurs-là, parce qu'ils ont envie de faire autrement, enfin, ils n'ont pas envie d'être tout seuls dans l'installation agricole, parce que le monde agricole, c'est quelque chose de dur. Agriculteur, c'est qu'on soit maraîcher ou éleveur, c'est quelque chose qui est très dur, qui prend beaucoup de temps, et rien que le fait d'être à plusieurs, ça permet d'échanger tout un tas de choses, ne serait-ce que de pouvoir parler, c'est déjà énorme. Ensuite, pouvoir travailler ensemble, avoir des chantiers communs, que ce soit repiquer des légumes ou déplacer un troupeau ou n'importe quoi, dès que t'es plus de un, c'est beaucoup plus facile. Et il y a aussi tout simplement l'accès à la terre et l'accès aux outils qui coûtent beaucoup moins cher quand on est plusieurs. Parce que l'accès au foncier est quelque chose de très difficile quand on s'installe, surtout si on ne vient pas du milieu agricole. Le foncier agricole, en gros, c'est l'ensemble des terres qui sont disponibles pour exploiter, donc quelle que soit son activité agricole. Et ce foncier agricole en France, il est soumis à beaucoup de pressions et de contraintes. Il y a des contraintes, par exemple, d'urbanisation et d'artificialisation, avec des villes qui peuvent s'étendre et qui peuvent un peu grignoter les terres agricoles alentour. Et donc ça fait monter le prix de la terre, évidemment. Et ce prix de la terre qui monte, c'est un obstacle pour beaucoup d'agriculteurs parce que, évidemment, eux, derrière, n'ont pas les moyens d'accéder au foncier. Donc, il y a tout ça. Chaque année, il y a plein de fermes qui ne trouvent pas de repreneurs parce que plus ça va, plus les fermes sont grandes et donc plus à la revente, elles sont chères et qu'on doit déjà s'endetter de quelques centaines de milliers d'euros, voire quelques millions pour s'installer. Bah, ça en refroidit plus d'un. Et donc l'avantage là-dessus d'être en collectif, c'est que non seulement à plusieurs, on est plus nombreux pour chercher de l'information pour s'installer, pour savoir où est-ce qu'on va et quelle parcelle on cherche. Et au niveau du coût, on peut évidemment, comme je disais tout à l'heure, mutualiser les moyens. Donc là-dessus, c'est un avantage qui est non négligeable.
Mais c'est évident que le collectif, en fait, a un impact direct sur l'économique, quoi. Moi, quand je me suis installé, s'il avait fallu que j'achète tout le matériel que j'ai aujourd'hui, que j'achète seul le matériel, eh ben, d'une part, je l'aurais pas fait, donc je suis encore dans des systèmes un petit peu exigeants au niveau physique, parce qu'on mécaniserait un petit peu moins. Et puis, c'est vrai que, je dirais que je passais encore beaucoup plus de temps à la vigne, quoi. C'est-à-dire que le fait d'avoir un tracteur, du matériel pour travailler le sol, du matériel pour traiter, c'est vrai que ça permet, je dirais, d'économiser du temps homme et de la fatigue, quoi. Donc, ça a un impact direct, quoi. Et on se rend bien compte que tous les points de vente collectifs ont un impact économique sur les personnes, quoi. Je dirais, se regrouper sur un lieu pour vendre, plutôt que d'être chacun dans son petit coin à vendre, d'une part, on passe moins de temps. Parce que ce qui est difficile, c'est le temps homme qu'on passe à vendre, quoi, le temps humain. Et le fait de partager ce temps-là, ça permet d'être un peu plus présent sur sa ferme.
On comprend que l'accès collectif au foncier est une solution pour répondre aux pressions qui se font sentir aujourd'hui autour de la terre. Mais alors, quels moyens sont mis en œuvre pour y parvenir ?
Leur but, c'est de dissocier la propriété de la terre de l'usage de la terre. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir un usage agricole des terres agricoles, donc produire, que ce soit des légumes, que ce soit des vaches, des porcs, peu importe. Mais ils ne veulent pas être propriétaires de ces terres-là pour ne pas retomber dans ces logiques capitalistes. Donc, ce qu'ils font en général, c'est qu'ils font en sorte d'acquérir le foncier à plusieurs, en cédant ensuite le foncier à une structure externe. Et cette structure externe-là, elle va, elle, être pérenne. Et le jour où eux, ils en ont marre d'être agriculteurs ou qu'ils veulent partir à la retraite, ou enfin voilà, s'ils sont là pour 5 ans, 10 ans, 20 ans, peu importe, ils partent avec toute leur expérience, mais ils laissent la terre à cette structure externe. Et c'est cette structure externe-là qui va, elle, se charger de trouver des nouveaux occupants de la terre. Et ensuite, ça veut dire que le jour où il y a un nouveau qui veut arriver et qui veut s'installer, il n'a pas à payer 2 millions pour s'installer et il peut profiter directement de la terre et de tous les outils qu'il y a déjà sur place, que ce soit les habitations, le matériel agricole, tout ça. Et c'est beaucoup plus facile pour démarrer. En plus, il y a des gens derrière qui sont là pour accueillir, pour soutenir, pour former, tout ça. Donc, il y a une structure en France qui est un peu emblématique de tout ce mouvement-là, qui s'appelle Terre de Liens. Donc, Terre de Liens, c'est une structure qui est assez connue, qui, je crois, aujourd'hui en France, a plus d'un millier de fermes. Il y a aussi l'avantage de dire ça permet de bloquer un peu le statut agricole de cette terre-là. Il n'y a absolument aucun risque que la personne qui soit... qu'une personne qui serait propriétaire toute seule puisse la revendre à des fins de spéculation immobilière ou la revendre pour construire des choses dessus. Enfin, voilà.
Pour François, la dynamique collective prend aujourd'hui une nouvelle forme. Depuis quelques années, il travaille à transformer sa ferme familiale en un tiers-lieu paysan.
Une définition du tiers-lieu, enfin, tiers-lieu, je dirais, une ferme transformée en tiers-lieu, en fait, c'est avant tout une ferme ouverte. Où le lieu, en fait, qui reste base de production, parce que je crois que c'est essentiel qu'une ferme, ce soit quand même un lieu où on produit de l'alimentation, parce qu'on a la terre, donc ça, c'est fondamental. Mais c'est aussi un lieu d'échange, quoi. Et tout ça, en fait, mis dans la problématique de l'évolution du climat, et de se dire, on doit aujourd'hui préparer nos fermes, en fait, à cette évolution climatique, à ce changement climatique. Donc, on va aussi, ici, expérimenter sur la problématique de l'eau, la problématique du sol et des énergies, quoi. Et la problématique humaine, voilà. Donc ça va être vraiment un lieu où ça va brasser, parce qu'il va y avoir à la fois donc des gens en formation, des gens qui ont expérimenté, donc ça va être voilà un brassage de savoir-faire, de compétences aussi.
François cherche donc à transmettre et essaimer ses pratiques sur le territoire. De la même façon, les collectifs agricoles que Rémi a rencontrés souhaitent reprendre leurs pratiques, qui s'inscrivent dans une vision de l'agriculture et de la société allant au-delà de leur collectif.
S'installer en collectif et produire et être paysan, c'est leur manière à eux de participer à, enfin de militer et de participer au changement de société. En fait, ils essayent de mettre en accord leurs convictions et leurs pratiques. Et ça, c'est super compliqué à faire. Ils s'inscrivent dans une vision générale qui veut changer les choses au quotidien. C'est plus que le côté un peu colibri de dire je fais ma part, parce que pour eux, déjà, bon, quand on se moque des gens qui disent oui, je fais ma part, je suis un colibri, je fais du zéro déchet, etc. Eux, ils ont carrément soit changé de boulot, soit essayé 2-3 trucs avant de se dire bon bah ok, mon boulot ça va être d'être agriculteur et paysan et tout ça. Enfin, ce choix là quand même, il n'est pas donné à tout le monde et il faut déjà pas mal de courage pour choisir ça. Et donc voilà, ils font ce qu'ils peuvent et ça marche doucement mais sûrement, je dirais. Avec toujours effectivement cette difficulté qui est pour eux de et pour tout le monde hein, dans le milieu écolo en général, enfin plutôt à gauche, de se dire mais à quel moment est-ce qu'on va atteindre ce putain de point de bascule et à quel moment est-ce qu'on va faire basculer les choses et à quel moment est-ce qu'on va arriver à toucher des gens qui ne se sentent pas du tout concernés par les problématiques écologiques, par les problématiques agricoles, par tout ça. Donc il y a un certain découragement, hein, souvent chez eux comme chez tous les autres militants ou chez toutes les personnes qui s'inquiètent un tant soit peu de l'avenir de notre société. Mais c'est là aussi qu'est le côté, qu'est la force du côté collectif, c'est que c'est toujours plus chouette de déprimer sur les élections présidentielles quand on est 4 ou 5 en train de préparer un repas dans la cuisine, que quand on est tout seul au fond de son champ, sur son exploitation.
Ce qui m'a paru important en fait dans ma vie en fait, c'est de faire émerger des gens. Que ce soit au niveau du MRJC, qu'au niveau de la Confédération paysanne en fait, j'ai toujours eu ce souci en fait de faire que le plus grand nombre de gens en fait se prennent en charge et agissent là où ils sont quoi. Une société individualiste en fait, enfin ça m'intéresse pas quoi. Je pense qu'on est fait pour vivre ensemble. Et ce qui m'intéresse c'est que le plus grand nombre de personnes en fait puissent être heureux dans ce qu'ils font, puissent trouver du sens dans ce qu'ils font quoi. Et voilà, et à mon niveau j'agis pour ça quoi. Je crois qu'en fait qu'une société, elle a du sens et je dirais et le bonheur il est là si on est plusieurs à vivre ensemble et à vivre sur des projets collectifs quoi.
Un grand merci à François et Rémi pour ces retours inspirants. On espère qu'ils ont su attiser votre curiosité pour la suite des événements au sein des collectifs agricoles. On se dit à très vite pour rencontrer la Ferme des Volonteux, une coopérative agricole dans la Drôme, rassemblant une vingtaine de personnes sur une vingtaine d'hectares.